Bienvenue dans La Lorgnette, l'émission qui regarde au plus près du Blaisois pour penser le monde en entier. Bienvenue dans cette nouvelle émission que les salariés de Studio ZEF, moi-même et Clémentine, bonjour Clémentine, qui allume son micro, voilà, merci, animeront désormais tous les vendredis de 17h à 18h, une émission que l'on veut de société où l'on pourra échanger, débattre avec des acteurs locaux sur des sujets globaux. Voici pour l'esprit que l'on a envie de donner à cette émission. Et pour essuyer les plâtres de cette première avec nous aujourd'hui, eh ben on va parler d'un sujet d'actualité brûlant même, puisque on va évoquer les mouvements sociaux qui agitent l'école. Et peut-être qu'ils ont bien raison d'agiter l'école, puisque elle en a soupé l'école des protocoles sanitaires. Évidemment, les grèves de la semaine passée et l'appel à la grève de la semaine future seront évidemment au cœur des échanges que l'on va avoir avec Marie-Anne Clément. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes déléguée CGT Éducation. Éducation 41, c'est ça?
Oui, voilà.
Et puis Emmanuel Mercier, donc, alors, vous êtes professeur aussi à Augustin Thierry.
Oui, je suis professeur sur la section professionnelle à Augustin Thierry.
Voilà, les présentations sont faites. Et donc Emmanuel Mercier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur également au lycée Camille Claudel. En quelle spécialité?
En électrotechnique. J'interviens essentiellement sur les BTS.
Donc filière professionnelle également.
Technologique.
Ouais. Et donc vous êtes co-secrétaire du syndicat FSU et secrétaire du SNES.
Voilà, c'est ça, co-secrétaire avec Aline Panon de la FSU 41.
Ça marche. Écoutez, on va attaquer direct avec les résultats, les conséquences de la grève du 13 janvier. Elle était historique, cette grève?
Cette grève, elle a été très importante. Historique, on va peut-être pas employer les grands mots tout de suite, mais en tout cas très importante, et il y a longtemps qu'on n'avait pas eu une participation aussi forte des personnels de l'éducation. Dans le département, bon, on a dit la moitié des écoles fermées, 75% de grévistes dans le premier degré, un gros 60% dans le second degré, donc vraiment une grève très majoritaire qui a exprimé non seulement un ras-le-bol de la façon dont l'éducation nationale est gouvernée depuis maintenant 4 ans, et puis un ras-le-bol de ses protocoles. Alors le 13, on ne savait pas encore qu'il avait été conçu sous les dance floors et les palmiers d'Ibiza, mais il y avait déjà ce ras-le-bol, mais pas seulement. Enfin, on en reparlera peut-être, mais il y avait d'autres revendications sur cette journée-là.
C'était beau de voir autant de mobilisation. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les professeurs autant mobilisés sur une manifestation.
C'est une belle journée de grève, une belle journée de manifestation, comme l'a souligné Emmanuel, parce qu'il faut savoir que c'était très près de la rentrée des vacances de Noël.
Ouais.
Or, on sait que c'est parfois un peu compliqué de mettre des gens dans la rue, des gens en action. Il faut déjà un peu les préparer en amont. Mais là, je pense que, comme Emmanuel le disait, on était prêts, quoi, parce qu'on était prêts sur plein de sujets à vouloir en découdre avec Blanquer. Et là, je pense qu'effectivement, l'épidémie de Covid est venue télescoper d'autres problèmes et avec de réelles difficultés d'organisation, parce qu'en fait, on y allait un peu au doigt mouillé, quoi.
Quels sont les résultats de cette grève, de cette mobilisation? On sait que c'est assez exceptionnel, je crois. Le ministère a reçu dès le soir même les syndicats. Donc ça, c'est des choses le premier ministre même a reçu les syndicats. Donc on comprend quand même dans ces moments-là que effectivement il y a eu un sursaut du côté du pouvoir.
Mais ce qui est intéressant déjà, c'est que c'est le premier ministre qui a reçu
nos organisations.
Alors Blanquer était là, mais il a été écarté. Et ça, c'est important de le souligner, parce qu'enfin, depuis 4 ans, il y a aussi une prise de conscience dans l'opinion publique de qui est Jean-Michel Blanquer. C'est-à-dire quelqu'un d'absolument réactionnaire, qui a un projet réactionnaire pour le système éducatif, et surtout qui est autoritaire et qui est très descendant. Et je pense que ça, il fallait que ça cesse. Et là-dessus, le Premier ministre a quand même compris qu'il ne fallait pas que ce soit lui seul qui reçoive les organisations syndicales. Ensuite, sur les annonces qui ont été faites, alors il faut les apprécier pour ce qu'elles sont, 1500 AED environ, des recrutements contractuels, le recours aux listes complémentaires dans le premier degré, des discussions envisagées sur le bac. Mais de toute façon, ça reste insuffisant. Ça reste très insuffisant pour répondre aux enjeux de la crise que traverse le système éducatif aujourd'hui, non seulement à cause de la crise sanitaire, mais également du fait de l'empilement des réformes antérieures et des suppressions de postes depuis maintenant très longtemps.
Alors, effectivement, on conçoit, hein, que la crise, elle n'est pas propre à Jean-Michel Blanquer, mais il dit lui-même qu'on ne fait pas grève contre un virus. Est-ce que vous avez fait, par contre, grève contre un ministre ?
Alors, pas que contre un ministre. Et puis, pour ajouter à ce que vient de dire Emmanuel, je pense qu'il faut préciser aussi que ce qui était quand même inattendu, c'est qu'il y ait une telle adhésion des parents d'élèves quand même.
C'est vrai.
Puisque, effectivement, les parents d'élèves étaient eux-mêmes... c'était compliqué pour eux. Bon, on sait que l'éducation nationale, tout au moins en maternelle et en primaire, on est la garderie du MEDEF depuis fort longtemps. Et bien sûr que... Là, en voulant absolument garder l'école ouverte, même si on peut être plutôt pour, nous, on n'est pas contre, on préfère que les élèves soient à l'école que chez eux, dans de mauvaises conditions souvent. Mais l'école ouverte à tout prix, sans les moyens, ça a fait que ça a désorganisé, y compris les parents qui n'ont pas pu aller travailler. Donc en fait, la garderie du MEDEF a très mal fonctionné du fait du manque d'organisation et du manque de prévision et de moyens de Blanquer. Donc non, c'était pas contre un virus, c'est contre ce ministre qui effectivement est irritant et méprisant la plupart du temps, mais aussi contre la politique du gouvernement de manière plus générale.
Et dans sa gestion de la crise.
Et dans sa gestion de la crise.
Coup, en entonnoir. Donc là, à l'éducation nationale.
Voilà. Et ça, évidemment que cette gestion calamiteuse dans l'éducation nationale, elle n'est pas que le fait de Blanquer. Elle est liée aussi à l'ensemble du gouvernement, quoi.
Je crois qu'il faut dépersonnaliser. C'est pas une question de personne. Jean-Michel Blanquer est le ministre. Il applique une politique qui est décidée par le gouvernement et la majorité parlementaire. Et donc, ça n'est pas la question n'est pas de remplacer Blanquer pour remettre un ministre qui va appliquer la même politique. Je pense que là, il faut un changement de cap profond pour le système éducatif. Et voilà. Alors maintenant, si Jean-Michel Blanquer ne peut pas assumer ce changement de cap, il prend la décision qui s'impose en partant. Mais la question, c'est bien une question qui est politique. C'est pas une question de personne.
Soyons honnêtes. Est-ce qu'il est vraisemblable qu'un ministre démissionne à 3 mois maintenant de l'élection présidentielle, qui verra changer probablement, quel que soit le chef d'État qui soit reconnu démocratiquement, quel que soit voilà, est-ce qu'un ministre de l'Éducation nationale peut changer les choses avec encore 3 mois de fonction?
Bah, c'est-à-dire que c'est une fois de plus il y a un enjeu politique évidemment, parce qu'on est dans un contexte électoral. Donc Macron se souvient qu'une partie du corps enseignant a pu voter pour lui pour 1000 raisons aux dernières élections, que ce soit au premier tour ou au deuxième tour d'ailleurs. Et donc il pourrait effectivement, Blanquer pourrait servir de fusil pour dire bon, on va un peu les calmer. Sauf que je pense que la situation est telle que de toute façon, même en mettant quelqu'un d'autre, c'est pas ça qui va calmer et réformer et changer l'éducation. Parce que effectivement, les problèmes qu'on rencontre là, que ce soit, on y reviendra pour la réforme du bac, mais pareil pour les lycées professionnels et de toute façon pour l'ensemble des sujets qui sont liés à l'éducation, on ne va pas changer la donne en 3 mois. Et effectivement, ce n'est pas une question de personne, c'est une question de fond.
Et au-delà, enfin nous, pour la FSU en tout cas, mais je pense que pour la CGT c'est pareil, l'enjeu des mouvements sociaux aujourd'hui qui peuvent se construire dans une période préélectorale, c'est bien de mettre la question sociale au cœur des débats également. Parce que bon, chacun a vu l'état du débat politique avec les idées d'extrême droite qui sont quand même mises en avant de façon très importante et enfin jusqu'à la nausée. Et nous, l'enjeu pour nous, c'est vraiment de remettre cette question sociale au cœur des débats. Et on pense que c'est par le mouvement social que cette question peut revenir au cœur des débats, et y compris au cœur des débats politiques pour les élections qui s'annoncent en 2022.
Donc même si ça ne changera a priori pas grand-chose là auprès de ce ministère de l'éducation, pour le nommer, du ministère Blanquer, on va dire, ça peut peser. L'idée, c'est effectivement de peser là dans la campagne et de remettre les enjeux d'éducation au cœur des débats.
Oui, nous l'idée, c'est ça, c'est de peser. Et on l'a déjà fait hein, sur des scrutins précédents où, au cours d'un mouvement social, avant l'élection, les candidats, y compris qui ne portent pas forcément les mêmes idées que nous, je pense à Nicolas Sarkozy à l'époque, par exemple, avaient été obligés de se positionner et du coup de tenir leurs promesses. Et c'est ça qui était important, je pense, c'était en 2007, pour ceux qui ont vécu la chose, mais autour d'une réforme de décret statutaire qui touchait au cœur du métier hein, des profs et qui s'était mobilisé, et donc qui avait imposé aux candidats à se positionner sur ces décrets-là. Et donc Sarkozy, effectivement, avait abrogé les décrets Robien lorsqu'il était arrivé au pouvoir. Et ça, c'était bien du fait du mouvement social. Et là, on voit l'importance du mouvement social, de l'action collective, et de l'action syndicale, et donc l'importance de rejoindre les organisations syndicales et de s'engager dans les mouvements sociaux.
Il faut surtout pas laisser croire aux gens, en général, et aux profs en particulier, enfin aux salariés de l'éducation nationale, que les réformes viendraient d'en haut. Hein. C'est par, effectivement, les mouvements sociaux, c'est par les mobilisations, les blocus de lycée, enfin toute forme de manifestation, qu'on peut obtenir des choses. Parce que sinon, de fait, faut rien attendre... De quelques gouvernements que ce soit, sauf effectivement si c'est adossé à des mouvements sociaux qui pèsent. Mmh. Ça, c'est clair.
Vous parliez vous êtes prof tous les deux en lycée. Est-ce que les syndicats de lycéens, est-ce que les groupements lycéens se sont mobilisés pour ces mouvements sociaux-là en ce moment ?
Il me semble que pour le 13, il y avait des... Alors nous, dans le département, c'est peu visible parce qu'il y a peu d'organisations de lycéens. Mais dans les grandes villes, oui, il y avait des organisations lycéennes qui appelaient, et des organisations d'étudiants, parce que il n'y a pas de fac, etc. Mais il y a quand même énormément d'étudiants qui sont ce qu'on appelle les sans fac. Il n'y a pas de place. Là, on aborde bientôt... Enfin, là, c'est en ce moment que les lycéens font Parcoursup, etc. Enfin, je veux dire, c'est la pagaille. Il n'y a pas assez de place. Il y a un problème aussi au niveau du supérieur. Donc oui, c'est normal que tout le champ de l'éducation soit... mobiliser.
Vous sentez aussi un agacement dans le protocole de vos lycéens, de vos étudiants ?
Il y a un vrai ras-le-bol chez eux. Alors, le ras-le-bol de la présence du virus, mais ça, j'ai envie de dire, on n'y peut pas grand-chose.
Et puis, on est tous logés à la même enceinte.
Mais un ras-le-bol d'un protocole, je pense, qui change très régulièrement.
Qui pèse
sur le moral des lycéens, mais pas que, hein, des lycéens, des collégiens, des écoliers également. Je crois qu'à tous les niveaux, nos élèves souffrent de la situation, souffrent de protocoles qui, là aussi, changent. Régulièrement, et notamment dans le premier degré. Je pense que sur les élèves du premier degré, il y a beaucoup de dégâts. Le retour du masque, par exemple, à la limite, il n'aurait pas fallu retirer le masque du tout, parce que le retirer pour 15 jours et demander à des enfants de le remettre 15 jours ou 3 semaines après, ça a été quelque chose qui a été très très compliqué pour eux à gérer sur le plan moral. Et là aussi, il faut fixer un cap, il faut que ça change, il faut fixer le cap, il faut s'y tenir, et de façon à avoir un protocole qui soit vraiment applicable dans les écoles et les établissements.
Et compréhensible parce que en fonction, alors des niveaux, bon, ça peut se comprendre entre le premier et le deuxième degré, on peut comprendre qu'il y a des différences de protocole, mais quel est le protocole aujourd'hui qu'on réexplique bien pour les auditeurs dans les lycées et les collèges, j'imagine que pour le coup ça fonctionne à peu près de la même façon. À partir de quand un cas contact, un cas positif est déclaré cas contact, enfin voilà. On s'y perd. Est-ce que j'aimerais bien qu'on remette des mots sur le protocole actuel.
Mais écoutez, je crois que je saurais même pas l'expliquer. je crois, je suis capable de dire des années là-dessus.
Ouais.
Si un élève, alors dans mon lycée, hein, si j'ai bien compris ce qui se passe, mais
on va comparer avec.
Oui, on va comparer. Voilà. Non, mais il me semble que si un élève est positif dans une classe, par exemple, bon. Évidemment que s'il a mangé à la cantine, etc., forcément, il va avoir eu des cas contacts. Donc, on essaye de les
retrouver.
Parce qu'en classe, on a les masques, on a le gel et on n'enlève pas le masque. Bon, alors parfois, il tombe un peu, hein, faut le remettre. Bon. Mais bon, ils se tiennent quand même aux gestes barrières. Bon, donc un élève qui est positif, il va falloir qu'il reste chez lui, ça c'est sûr. Alors, selon qu'il est vacciné, qu'il n'est pas vacciné, alors c'est pas le même nombre de jours, d'après ce que j'ai compris. Or, nous, on ne sait pas qui est vacciné de qui n'est pas vacciné. Je pense que seule l'infirmerie le sait. Donc, il doit passer sans doute par l'infirmerie. Ses parents viennent le chercher. Parce que normalement, s'il est mineur, les parents viennent le chercher. Et ensuite, il est obligé de se faire tester. Mais après, je me demande s'il n'y a pas actuellement des déclarations sur l'honneur, puisqu'on... Comme on n'a plus, on passe notre temps à se mettre des cotons-tiges dans le nez.
C'est ça.
On n'en a pas, il y en avait, et là, il y a eu des ruptures, là, ça va être un peu le bazar, voilà, une semaine ou deux. Donc voilà, et donc, il a un temps où il doit rester chez lui, et s'il est à nouveau négatif, il peut revenir en classe. Je crois que c'est ça, mais je n'en suis même pas sûre.
Ouais. Donc c'est voilà, c'est cette accumulation.
Ah ben oui, parce qu'il y a eu tellement
de voilà
et tout. Moi, je crois que c'est ça. Tout est. Mais j'en suis même pas sûre. Hein.
Tout a été fait de manière verticale. Voilà, aucun les syndicats sont consultés dans la confection la réalisation des protocoles.
Ah non, non, il y a des réunions au ministère. Ouais. Enfin, nous, on a les comptes rendus régulièrement. Mais ce qu'on peut porter ne ressort pas dans le protocole, puisque faut bien voir que le fonctionnement du ministère de l'Éducation sous Jean-Michel Blanquer, c'est quelque chose qui est vertical. Donc le ministre décide tout seul, en France ou pas d'ailleurs, et ça s'applique ensuite de façon parfois complètement déconnectée du terrain. Par exemple, dès la reprise, après le premier confinement, on avait dit il faut mettre des capteurs de CO2 dans les salles de classe.
Les
parce
les
que,
capteurs,
alors non pas que le capteur empêche la circulation du virus, mais le capteur signale qu'il faut aérer.
Exactement.
Et les scientifiques, mais dès le départ, avaient dit un des premiers gestes barrières, c'est d'ouvrir les fenêtres. C'est même pas de mettre du gel ou hydroalcoolique, c'est même pas de porter des masques, c'est d'ouvrir les fenêtres et d'aérer. Parce que ça divisait, alors j'ai plus les chiffres tête, mais c'était impressionnant, ça atténuait très fortement la probabilité d'attraper le virus. Donc depuis juin 2020, on dit qu'il faut avoir un effort pour installer des capteurs de CO2. Là, enfin, on apprend, alors le département équipe tous les collèges du département de 3 capteurs de CO2. Parce que c'est vrai que ça relève des collectivités locales, mais à un moment donné, l'État, le gouvernement peut décider, peut fournir aux collectivités locales du matériel aussi, ça c'est possible, et puis les collectivités locales peuvent aussi prendre en charge cette dépense-là.
Et 3 capteurs,
là, c'est 3 pas... capteurs par collège, autant dire que voilà. ça ne sert pas à grand-chose.
Ouais, hein, parce qu'il en faudrait un par classe, on est d'accord.
Bah, oui, en principe,
c'est,
oui.
C'est le principe du capteur.
Donc on est encore 3 années scolaires après, finalement, le début du virus, parce qu'on est bien sur la 3e année scolaire perturbée, on en est encore là, quoi. Et on en est encore avec, dans certains établissements, des fenêtres qui ne s'ouvrent pas. Donc voilà, c'est quand même impressionnant.
Et ça, c'est la faute de Jean-Michel Blanquer.
Alors, c'est pas la faute de Jean-Michel Blanquer, mais...
Ça témoigne d'un...
Ça témoigne de l'infaisabilité, parfois, de mesures qui ne coûtent pas cher, parce que c'est vrai qu'ouvrir une fenêtre, voilà, mais quand on ne peut pas l'ouvrir... Il y a des endroits où on ne peut pas ouvrir. Où il y a des endroits, c'est... On peut ouvrir qu'avec des petits vasistas, pour des raisons de sécurité,
degrés,
puisque on a peur que des élèves se défenestrent, à juste titre. Hein, il faut éviter les dangers. Donc ça permet d'aérer. Il y a aussi des systèmes de VMC là, qui permettent... Mais enfin, c'est pas la même chose que d'ouvrir une fenêtre en grand. Comme d'ailleurs, on le préconise chez soi. On nous dit qu'il faut aérer, bon...
Mais ceci dit, c'est vrai que ça relève de la compétence des collectivités locales, mais en France, c'est bien, sauf preuve du contraire, c'est toujours le gouvernement qui réglemente. Et donc, le gouvernement pouvait imposer une règle qui s'applique bien aux collectivités locales.
On va revenir sur la mobilisation en Loir-et-Cher. Il y avait un nouvel appel à la grève hier. Le Loir-et-Cher, je crois, sur les indications, j'imagine, des syndicats que vous portez, a préféré une journée d'action, je crois. On a vu des photos de manifestants avec des bougies sur l'escalier Denis Papin.
C'était l'objectif. Bon, on a décidé de faire syndicalement et... plutôt une retraite au flambeau, pour montrer qu'il fallait quand même un petit peu
maintenir la visibilité
de l'action. Cela dit, moi, dans mon établissement, j'ai des collègues qui ont fait grève, puisqu'il y avait un appel à la grève.
Oui.
Donc, évidemment, elle a été moins importante dans le département. Je ne dis pas que dans les autres départements, il n'y a pas eu de grévistes plus importants, mais il y a eu effectivement des collègues qui se sont mis en grève. Et parce que l'idée, c'était quand même de maintenir un petit peu les braises un peu chaudes pour bien préparer et réussir la mobilisation du 27.
Et là, on repart sur une grève à l'image du 13.
C'est-à-dire que là, c'est interprofessionnel, intersyndical. sur la question des salaires, ce qui n'est pas neutre dans l'éducation nationale, et sur la question des conditions de travail et de la précarité quand même des salariés ou des retraités, parce qu'il y a un appel aussi à la fois des retraités, mais aussi des jeunes, hein, tous les jeunes qui sont sans solution de travail, de salaire, etc.
Oui, mais oui, il y avait effectivement un appel à l'action, plus qu'à la grève hier. Parce que, alors là aussi, mais si on parle des mouvements sociaux, je pense qu'il faut parler des organisations syndicales et de la façon dont on prend les décisions également. Et l'analyse qui avait été faite dans le département, c'est que on n'aurait pas été suivi sur... Il n'y avait pas de demande d'abord forte hein, de nos collègues pour qu'il y ait un appel à la grève, comme on dit au cordeau, sur le vin. Donc il y a le préavis de grève de toute façon qui court pour tout le mois de janvier, enfin jusqu'aux vacances de février. Mais l'analyse qu'on a faite de la situation, à partir des remontées de nos collègues, puisque quand on prend la décision d'appeler à la grève en tant qu'organisation syndicale, ça tombe jamais d'en haut, justement, contrairement à ce qui se passe au ministère. Et c'est bien, on prend la température du terrain et on se renseigne auprès de nos collègues s'ils sont prêts à nous suivre ou pas. Donc là, le constat qu'on avait fait, c'est qu'il fallait qu'on s'oriente sur une action de type ce qu'on a fait hier, c'est-à-dire le soir, avec une marche au flambeau, pour maintenir la pression, parce que l'idée, c'est de maintenir la pression, et d'embrayer sur le 27, où là, vraiment, on appelle à la grève. Et on espère que la mobilisation sera aussi forte que la journée du 13.
Ouais, les attentes pour la journée du 27 sont effectivement sur la base de la mobilisation du 13. C'est l'idée, c'est l'objectif.
C'est-à-dire, c'est la poursuite, mais la date du 27 était connue depuis bien longtemps. C'est la date du 13 qui est apparue dans le paysage un peu de manière... pas inattendu, mais disons que...
Un peu plus impromptu.
Voilà, impromptu, ça a été au vu, évidemment, parce que, effectivement, comme le souligne Emmanuel, il y a quand même eu des collègues qui, au bout d'une semaine, témoignaient, c'est comme si on n'avait pas eu de vacances. Ils étaient épuisés, notamment dans le primaire et en maternelle, où c'était une valse entre les gamins qui arrivaient, qui repartaient, enfin, c'était insupportable. Enfin, notamment, moi, j'ai entendu des témoignages de directrices d'école, qui était à genoux, quoi, qui était sur les genoux, sur les rotules, parce que c'était difficile. Et puis nous, pas trop dans le département, mais dans certains départements, les classes n'étaient pas complètes. Donc, comment faire court? Est-ce qu'on avance le programme au détriment des autres gamins? Enfin, c'était compliqué.
Comment, je rebondis, comment faire court quand, en moyenne, je me base sur le témoignage d'un ami qui est professeur, en moyenne, il y a, sur 35 élèves, il y a 8 élèves en permanence, et jamais les mêmes d'un jour sur l'autre, qui sont absents pour cas positif, cas contact, etc. Comment on fait quand on est prof?
Alors, on a envie de dire joker, là. c'est compliqué. Non, mais enfin, professionnellement, c'est pas possible. On est vraiment dans un mode très, très dégradé. Mais c'est depuis c'est la troisième année scolaire où on connaît des conditions d'enseignement qui sont très dégradées et où il n'est pas possible de toute façon à la fois de finir les programmes et d'amener tous les élèves d'une même classe au même endroit parce que comme vous le signalez personne n'est jamais là en même temps et c'est très 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 compliqué et c'est là où je rebondis sur le faux débat qu'instille Jean-Michel Blanquer entre ceux qui voudraient ouvrir les écoles et ceux qui voudraient les fermer.
Il a tendance à polariser effectivement sur cette question-là.
Cette polarisation, c'est pour masquer le fait que justement il ne fait rien d'autre et qu'il ne travaille pas en tout cas pour permettre au système éducatif de fonctionner correctement. Et ce faux débat-là, en réalité, il n'existe pas, c'est un faux débat. Et personne, ou très peu, veulent fermer les écoles en réalité. Nous, ce qu'on a toujours dit, c'est qu'il fallait ne pas surtout revivre le confinement de 2020 et donc de maintenir les écoles ouvertes, mais de maintenir les écoles ouvertes en protégeant les personnels, en protégeant les élèves. Et là, il faut un protocole qui soit strict. En début d'année scolaire, un cas dans le premier degré, puisque les élèves n'étaient pas vaccinés, un cas positif entraînait la fermeture de la classe et non de l'école. Et finalement, quand on fait le bilan, il y avait moins d'élèves qui étaient pénalisés par des fermetures à ce moment-là, parce que tout de suite, on coupait les chaînes de transmission, qu'à partir du moment où on a commencé à fermer à partir de 3 élèves contacts, positifs, je veux dire, et puis où au final, aujourd'hui, on ne ferme plus les classes, on n'a plus personne en classe. Donc c'est pas du tout satisfaisant. Et ça entraîne... ça entraîne beaucoup de difficultés, et on va en reparler peut-être, mais sur le bac général, normalement, la réforme Blanquer impose les épreuves de spécialité au mois de mars, Et là, la demande, mais qui est urgente, il faut prendre la décision aujourd'hui, c'est de reporter ces épreuves-là au mois de juin. Parce qu'on voit bien avec le mois de janvier qu'on vient d'avoir, et puis même le début d'année qui a quand même été relativement perturbé aussi, que nos élèves de terminale ne sont pas prêts à passer les épreuves de spécialité en plus. Donc c'est les grosses épreuves hein, du bac au mois de mars. Et pour dire que cette réforme du lycée, elle a été... elle est faite sans queue ni tête et que l'objectif n'est pas de faire réussir plus d'élèves, c'est qu'en fin de compte, depuis qu'elle est mise en œuvre, il n'y a jamais eu une session normale du baccalauréat depuis que le nouveau bac est en place. C'est-à-dire qu'on n'a jamais connu les épreuves de spécialité en mars, alors que ça fait 3 ans qu'elle devrait avoir lieu.
On va revenir sur la réforme du bac un tout petit peu plus tard. Une dernière question, et puis on va faire une petite pause avant de revenir sur la réforme. Je ne suis pas un grand connaisseur de l'éducation nationale, mais il m'a semblé que pour la grève prévue du 13 janvier, il y avait eu aussi un mouvement parmi les chefs d'établissement qui sont, je crois, soumis à... Alors, si ce n'est des devoirs de réserve, je ne sais pas, je m'embrouille peut-être un peu, mais en tout cas, à une certaine distance vis-à-vis des mouvements sociaux. Un réel engagement dans cette voie-là. Est-ce que vous me confirmez ? Est-ce que aussi les chefs d'établissement sont eux aussi tributaires de protocoles verticaux qui leur arrivent à la dernière minute et qui sont sans queue ni tête ?
Oui, alors bon, moi je vais pas prendre la défense des chefs d'établissement parce que personne leur a demandé de passer le concours et de le réussir et d'occuper les fonctions qu'ils occupent. Ouais. En tout cas, c'est vrai qu'ils appliquent des choses inapplicables la plupart du temps parce qu'avertis.
Et qu'il y a un ras-le-bol, j'ai l'impression.
Il y a eu effectivement des syndicats chefs d'établissement qui ont appelé et aussi, je pense qu'ils sont. Ils étaient aussi dans la dynamique d'une autre mesure qu'avait fait l'objet de mobilisation ici ou là. C'est-à-dire que maintenant, les agents comptables, les intendants des lycées vont être sous tutelle, en gros, de la région pour dépenser l'argent. Donc ça a évidemment un impact sur les établissements. Et donc, il y avait des chefs d'établissement qui avaient appelé à faire la grève administrative le jeudi et le vendredi, je crois, hein, Emmanuel. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y avait des soutiens... Et il y a même des chefs d'établissement qui ont clairement appelé les collègues à dire si vous voulez faire grève, faites grève. C'est bon, quoi, parce qu'à un moment donné...
Alors que ce n'est pas des personnels qu'on entend faire grève
normalement, ils vont
je
pas,
crois.
Non, c'est pas...
Ce n'est pas une culture.
C'est pas leur culture. Sinon, ils ne seraient pas chefs d'établissement. Sinon, je ne serais jamais chef d'établissement. De Emmanuel non plus. On a fait trop souvent grève.
En tout cas, ce n'est pas une culture professionnelle de se mobiliser. Mais il faut bien voir le ras-le-bol et la pression qu'il y a sur les chefs d'établissement. On leur demande d'être comptables de tout. Il y a effectivement la loi donc dite 3DS qui a dû être votée d'ailleurs au Parlement et donc qui va placer en plus qui va faire entrer les collectivités locales dans les décisions budgétaires et donc de dépenses d'argent des collèges et lycées. Et donc ça, il y a une forte opposition de leur part aussi. Mais il y a également tout ce qui s'accumule depuis des années, l'autonomie des établissements qui s'est développée. Et en fait, l'autonomie des établissements, c'est quoi ? C'est renvoyer au niveau local la gestion de la pénurie de moyens, pour que ça se voit moins, en fait. Et ça crée une pression sur eux également. Et moi, ça ne m'étonnerait pas qu'ils craquent au bout d'un moment et qu'il y ait une forme de révolte chez les chefs d'établissement aussi.
Eh bien, merci beaucoup. On fait une petite pause et puis on réattaque tout de suite sur le deuxième sujet qui est donc la réforme du bac qui rentre en vigueur et qui est d'actualité en ce moment avec les passages d'épreuves de spécialité. Une petite pause. Vous êtes toujours dans La Lorgnette, la nouvelle émission de Studio ZEF qui parle d'actualité globale avec des acteurs locaux. Et donc nous sommes toujours en compagnie de Marianne Clément du syndicat CGT Éducation 41 et d'Emmanuel Mercier du syndicat FSU et SNES. Donc deuxième sujet qu'on n'avait pas forcément prévu de traiter et puis qui s'est réinvité dans la campagne nationale un petit peu, et puis elle est d'actualité puisque effectivement comme vous le disiez avant la pause Emmanuel, les épreuves de spécialité vont arriver assez vite maintenant avec une demande de les... quelle est la demande d'ailleurs? De les décaler, de les annuler, voilà.
Ah non, la demande c'est de les reporter au mois de juin en fait, c'est d'avoir une vraie épreuve ponctuelle, mais au mois de juin, comme le bac que classique, tout le monde a connu jusqu'à maintenant en fait... jusqu'avant la mise en place de la réforme.
On va donc effectivement parler de la réforme du bac installée par votre ministre de tutelle, Jean-Michel Blanquer. En quoi consiste cette réforme du bac ?
Cette réforme du bac, c'est assez compliqué quand même. Hein, parce que c'est vraiment un dynamitage de ce que tout un chacun a pu connaître sur l'organisation du lycée. Les élèves, l'idée c'est que l'élève est maître de son parcours, donc on est vraiment dans une logique libérale. L'élève est maître de son parcours et donc choisit les enseignements. Alors, il y a un tronc commun et il choisit les spécialités. Donc, il se compose son menu comme ça pour passer le bac. Surtout, la réforme, elle introduit le contrôle en cours de... Elle introduisait dans un premier temps le contrôle en cours de formation et le contrôle continu. Donc, c'est deux choses différentes parce que le CCF, contrôle en cours de formation, c'est des épreuves ponctuelles, mais organisées dans l'établissement, mais ponctuelles à un moment donné. Et le contrôle continu, ce sont toutes les évaluations de l'année qui comptent. Et donc, on se retrouve avec un bac où 40% de la note est issue du contrôle continu et 60% issue des épreuves de spécialité qui sont ponctuelles donc au mois de mars. Et des contrôles en cours de formation qui étaient institués, qui ont été transformés depuis d'ailleurs en plus ou moins contrôle... c'est un mélange de contrôle continu et de CCF en fait. On ne sait plus trop où on va. Mais surtout, ce que ça introduit, c'est qu'à partir du moment où l'élève choisit ses spécialités et constitue son menu, chaque discipline devient indépendante les unes des autres. Et donc, contrairement à une organisation en série, il n'y a plus de lien entre les disciplines et donc il n'y a plus de cohérence entre les disciplines au sein d'un menu. C'est-à-dire que l'élève va choisir la spécialité maths, la spécialité anglaise, et puis mettons, économique et sociale. Et du coup, il ne peut plus y avoir de lien entre toutes ces spécialités parce qu'un élève qui va rechoisir une des spécialités mais avec deux autres, du coup, lui aussi aura le même programme, finalement.
Je vous confirme, c'est très compliqué à suivre.
Et donc, c'est très compliqué à suivre. Ça fait exploser le groupe classe. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de groupe classe qui est quand même... dans un établissement scolaire qui est important.
Des enjeux de socialisation
parce que,
des élèves.
Voilà, il y a des enjeux de socialisation. Il y a des enjeux pédagogiques aussi autour du groupe classe. Et donc ça explose complètement. Et puis surtout, les élèves se retrouvent sous la pression permanente de l'évaluation. Et nous, ce qu'on constate, c'est que finalement, ils sont plus stressés aujourd'hui qu'à l'époque où le bac se situait plutôt en fin d'année, avec des épreuves assez ramassées sur un temps court, alors un peu en première et beaucoup en terminale. Et ça, c'est à noter. Et là-dessus, parce qu'il faut voir le double effet qui se coule, c'est que là-dessus, c'est greffé Parcoursup. Et donc, plus que finalement par l'enjeu du bac, les élèves sont stressés par l'enjeu de Parcoursup et de la poursuite d'études. Et là aussi, c'est très très important au niveau de leur stress et puis du moral que peuvent avoir les élèves dans nos lycées.
Marianne.
Oui, moi je pense que cette réforme du bac, ça inscrit encore davantage l'école dans une dimension de classe, au sens classe dominante, classe dominée. Pourquoi ? Emmanuel a raison. Les élèves font leur menu. Mais vous devez bien vous douter que tous les élèves qui entrent en seconde, par exemple, et en première, n'ont pas le même bagage capital, culturel, social, pédagogique, comme dirait Bourdieu, le même capital, selon qu'il est enfant de prof, où on connaît quand même assez bien la cuisine.
Ou enfant d'ouvrier.
Ou de famille qui ne parle pas forcément bien le français, ou de classe modeste, mais qui n'ont pas les clés. Mmh. Et donc, vous voyez, ça permet de distinguer, au sens de Bourdieu, de distinguer des élèves qui appartiennent à la classe dominante et qui, eux, de toute façon, tireront toujours les marrons du feu.
N'auront
et les
pas
autres,
de problème voilà, pour, dans la suite du Parcoursup,
et les autres. Et d'ailleurs, à ce titre, il faut se souvenir quand même qu'on est de plus en plus dans une école de classe, parce que quand il y a eu le confinement, les élèves étaient parfois en télétravail, les étudiants étaient en télétravail et tout. Les seules classes qui restaient ouvertes, c'était les classes préparatoires. Donc les dirigeants de demain. Donc c'est pas neutre ça, les élites, quoi. C'est pas neutre. Donc voilà. Et effectivement, enfin moi je vois bien, Emmanuel le voit aussi dans son lycée, les élèves n'ont qu'une trouille, c'est de rater le devoir. Ils sont en permanence à la recherche d'un devoir supplémentaire qui permettrait, etc. Avec, évidemment, la pression des parents, parce que les parents, ben, ils sont un peu perdus, hein, on le serait à moins. Et du coup, il y a une espèce de danger, mais à la note, et puis ça crée mais des relations absolument délétères. Ça peut créer des relations délétères et violentes, symboliquement ou non, d'ailleurs, avec les professeurs. Parce que c'est vrai que les élèves, bon, avant, s'ils avaient 8, bon, là, ils se disent, la fois prochaine, j'aurai 12, et puis ça s'équilibrera. Mais là, ils se disent, oh là là, mais je ne peux pas trop me tromper. Donc, ils demandent, enfin, c'est normal, ils veulent savoir et tout. Enfin, ça crée une ambiance pas très saine. Et ça accentue l'idée de la réussite, du mérite aussi. Ah, il n'a qu'à travailler, hein, voilà, et puis il va réussir et tout. Ce qui est faux, ce n'est pas comme ça, d'autant que les programmes, parfois, les élèves sont encouragés, obligés à traiter des questions chez eux, par eux-mêmes. Alors là aussi, vous voyez bien que selon qu'on est aidé ou qu'on n'est pas aidé, ben, on n'a pas le même résultat. Donc ça crée un stress terrible pour les élèves. Et je termine là-dessus, mais il y a eu la réforme du lycée, effectivement, qui est visible, très visible, parce qu'elle impacte beaucoup le bac, hein, qui est quand même quelque chose de... C'était quelque chose de symbolique, le bac. Mais il y a eu la même réforme en lycée professionnel. Et là, en gros, ça a permis de récupérer des moyens en diminuant les heures de cours. Moi, par exemple, j'ai une classe de terminale bac pro avec une épreuve d'histoire-géographie au bac avec une heure par semaine.
Ah oui, ça semble court, effectivement.
Voilà, pour, et elle est même placée de 5 à 6.
Effectivement.
Voilà, elle pourrait être de 2 à 3, mais elle est de 5 à 6. C'est comme ça. Donc, vous voyez, alors, en revanche, on nous a dit, mais non, on ne vous a pas enlevé d'heures. On vous les a mises autrement. Alors, c'est-à-dire, on nous a mis une heure de... Alors, comment ça s'appelle? Je ne sais même plus. Alors, approfondissement. Voilà, mais en classe entière, hein. Je ne sais pas ce qu'on approfondit en classe entière.
C'est une heure de couronne.
Oui, alors voilà, en gros, ça se...
Ça
voilà.
Voudrait être un approfondissement, voilà, mais les moyens ne,
en
ne,
classe
ne
entière,
sont pas,
pas
permis
possible.
D'en faire. Ouais.
Mais il y a quand même un petit peu aussi de... Il y a aussi quelque chose qui appelle la co-intervention. C'est-à-dire que moi, je dois travailler une heure tous les 15 jours, donc une demi-heure semaine, donc une heure tous les 15 jours, avec un collègue d'atelier pour montrer que le français et l'atelier, ça a à voir quelque chose ensemble. Je ne dis pas que ça n'a pas à voir quelque chose ensemble, mais pas comme ça. Donc, en gros, moi, j'ai une heure de français en moins, mais on me dit, mais si, tu l'as fait dans le cadre de la co-intervention. Non, ce n'est pas vrai. Et le collègue d'atelier, il a une heure d'atelier en moins, mais on lui dit, mais si, tu vois bien, tu le fais dans le cadre de la co-intervention. Ça veut dire que les élèves sont beaucoup moins formés. Et la dernière chose hyper importante pour la réforme du bac pro, c'est qu'en fait, avant, les élèves allaient dans des filières. Bah, c'est un peu le pendant, d'ailleurs, du lycée, hein, d'une certaine manière. Un élève qui voulait faire de l'électricité, il allait dans une filière où on faisait de l'électricité. Très bien. De la chaudronnerie, de la maintenance, du commerce, enfin tout ce qu'on veut. Maintenant, ça n'existe plus, ça. C'est des familles de métiers. Donc, vous entrez en seconde, comme une sorte de seconde indéterminée. Et puis, au bout, à la fin, en première, vous choisirez si vous voulez faire de l'électricité et tout. Et c'est présenté comme quelque chose d'avantageux. On dit, mais voyez bien, les élèves ont un an de plus.
Pour choisir.
Pour choisir. En fait, ils ne choisissent rien du tout parce que c'est en fonction des possibilités d'atelier qu'il y a ou pas, en sachant que les élèves sont très peu mobiles. Ils n'ont pas envie de quitter Blois, forcément.
Bien sûr.
Et donc, c'est une formation au rabais. Et ça permet de récupérer des moyens.
Et je crois que sur ces questions d'orientation, il faut arrêter de croire que parce qu'un élève va entrer dans telle ou telle filière, dans tel ou tel métier, dès la seconde, dès la classe de seconde, enfin dès après la troisième, toute sa vie, il va accomplir ce métier-là. On sait bien que ce qui est important, c'est d'avoir un niveau de qualification initiale qui soit assez important pour après, au cours de sa vie, pouvoir changer éventuellement. Et d'ailleurs, la formation continue des adultes, elle profite essentiellement à ceux qui sont le plus qualifiés.
Bien sûr.
Dernière question, et puis on vous libère. Merci d'être venu. Vous parliez de filière. On a entendu parler de la disparition de la filière S au niveau national il n'y a pas si longtemps. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la réforme du bac a encouragé cette disparition? Alors, et on se plaint que ça ferait disparaître les élites. Est-ce que c'est une mauvaise chose?
En réalité, la filière S, elle existe toujours, mais par le choix des spécialités qui sont majoritairement choisies malgré tout, c'est-à-dire qu'elles se sont reconstituées. Et globalement d'ailleurs, et ça c'était une des critiques qu'on formulait sur l'ancien bac avec les trois séries, hein, c'est qu'il n'y avait pas assez de séries justement. En majorité, quand on regarde, les élèves ont reconstitué certaines filières de l'époque des bacs A, B, C, D, E, F, en fait.
Donc c'était il y a longtemps.
Oui, c'était il y a longtemps, mais finalement c'est ça qui s'est reconstitué.
D'accord.
La différence, c'est qu'à l'époque, il y avait de la cohérence entre les disciplines puisque les programmes étaient conçus en fonction d'une filière justement. Et donc, quand on choisissait le bac B, on n'avait pas les mêmes maths que lorsqu'on allait sur le bac C ou le bac D. C'est cette cohérence-là qui n'existe pas.
Oui, voilà. Et puis, Emmanuel en a parlé tout à l'heure. Évidemment que les maths, bon, ça, c'était une manière de sélectionner. Mais il y a d'autres moyens de sélectionner. Hein. Il y a les classes euro, il y a toutes ces choses-là. Donc, de fait, les maths n'ont pas complètement disparu, sauf que je pense que ce n'est pas adapté, en effet, à la réforme qui a été mise en place. Mais de toute façon, la sélection, elle ne se fait pas sur cette base-là. C'est une sélection quand même sociale, souvent. Hein, et elle profite, de toute façon, à ceux qui ont tous les codes. Et les maths, c'était un moyen de sélection et de distinction. Mais pas que, hein, il n'y avait pas que ça, même si ça y contribuait. Et de toute façon, ça a été réintroduit un petit peu par la fenêtre, de toute façon. Mais une chose qui est extrêmement importante, et Emmanuel l'a dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, ça permet que le groupe classe n'existe plus. Et ça casse les dynamiques collectives. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des classes qui se connaissaient bien.
Comme disait, logique libérale individualiste.
C'est-à-dire qu'avant, bon, moi je me souviens, on a connu des blocus de... Alors ça existera encore, hein, c'est pas le problème. Mais si vous voulez, il y avait déjà un groupe classe qui se connaissait, parfois depuis la seconde, etc. Là, bah, ils se connaissent beaucoup moins quand même. Et puis, ils ont de moins en moins de temps pour faire connaissance parce qu'ils sont, tout le temps dans le travail, etc. Mmh. Donc, effectivement, ça crée une espèce de jeunesse. Enfin, c'est ce que Blanquer et les gouvernants pensent, hein, mais il y a des résistances et tant mieux. Mais ça participe à créer une espèce d'individualisme complet, quoi. Mais bon, il y a des résistances. La preuve, 27 janvier, on sera dans la rue.
Allez, un mot pour terminer, Emmanuel.
Enfin, pour conclure, ce qui crée la sélection, c'est Parcoursup essentiellement. Et Parcoursup a été fait pour sélectionner, y compris à l'entrée à l'université, ce qui est quelque chose qui était atroce pour les libéraux, c'est qu'avec le bac seulement, on puisse entrer dans n'importe quelle université. Et c'est ça, mais c'est un enjeu démocratique qui a vraiment été attaqué par cette réforme-là.
Eh bien, merci. On voit que la production des élites a encore de beaux jours devant elle. Donc, les syndicats appellent à manifester donc, ce jeudi 27... 20, pardon. Non, 27,
non, 27
voilà,
27.
Jeudi 27, c'était hier, le jeudi 20. Donc, on attend avec impatience
14h30
de voir...
devant la préfecture.
À Blois, exact. Oui, et 10h30 à Romorantin et Vendôme, et appel à la grève et aux manifestations.
Le message est passé. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau, essuyer les plates de notre première émission CF. C'était très plaisant. Merci beaucoup.
Merci
à une prochaine.
Accueilli.
On fait une petite pause et puis on termine donc cette émission avec un agenda culturel et social à venir. La discussion était passionnante, mais il est temps qu'on conclue cette première émission de La Lorgnette avec un petit agenda. C'est Léa, une stagiaire qu'on a pour quelques jours encore avec nous, qui va nous présenter donc cet agenda. On a sélectionné quelques événements qui vont venir occuper votre week-end et la semaine qui arrive. Léa, quelques dates donc à nous annoncer.
Alors, bonsoir à tout le monde. Donc, l'agenda. On commence avec une invitation à la danse de François Durand-Marnier. Deux stages sont possibles le dimanche 23 janvier et le 14 mai. Donc, les renseignements à la maison de Bégon.
Un festival de lecture, je crois.
Oui, c'est
un
tout à fait ça.
Un festival important de lecture.
Alors, c'est piloté par la CAF du Loir-et-Cher qui se déroulera le 24 janvier au 4 février dans l'espace Georges Semprin, Mirabeau et Quinière à la maison de Bégon et à la médiathèque de Maurice Genevoix. Vous invite à une série d'ateliers, de lectures, de rencontres et de spectacles à découvrir autour de la thématique du cirque.
Le festival s'appelle Graines de lecteur, on ne l'a pas dit.
Ouais, Graines voilà. de lecteur.
Donc un festival de lecture publique qui encourage les familles, les structures à faire découvrir les joies de la lecture aux enfants plutôt et aux familles surtout.
On continue sur de la lecture, samedi 22, la nuit de la lecture à la médiathèque du Parc Ronsard à Vendôme. C'est une animation sur inscription. De 18h30 à 20h, temps de lecture autour de Camille Chibeil et tapis de lecture suivi d'un atelier créatif. De 20h à 21h, quiz, aimons toujours, aimons encore. De 18h30 à 19h, découverte de la session, facile à lire. On retourne à Blois avec Ferry du Blaisois au Muséum d'Histoire Naturelle du 22 janvier au 12 juin. Bestiaire extraordinaire et climat tropical d'il y a 15 millions d'années, plongé dans la mer de Falun et déambulé dans un paysage maintenant disparu pour y découvrir des animaux étrangement différents.
L'idée de cette exposition est de faire découvrir qu'il y a donc 15 millions d'années sur le territoire que nous occupons, il y avait des animaux très étranges et que la surface terrestre n'était pas du tout la même donc à découvrir.
Le climat était beaucoup plus chaud. C'était,
tout à fait.
Au plus chaud de notre ère, un peu comme au Brésil. Alors, au château de Fougères, sur Bièvre, les animaux sont aussi à l'honneur, avec l'exposition Pense Bête, le travail de 5 artistes femmes, en place jusqu'au 31 janvier. On continue sur les expositions temporaires gratuites. L'exposition Art de Jeunes à la chapelle Saint-Jacques à Vendôme. On vous présentera les œuvres réalisées au cours de l'année par les enfants et les jeunes dans les structures gérées par le territoire vendômois. La direction Enfance-Jeunesse propose également à tous les Vendômois d'apporter leur touche de créativité à l'exposition en prenant part aux ateliers artistiques gratuits et ouverts à tous qui auront lieu durant les horaires d'ouverture. Donc du samedi 22 au 29 de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Renseignements sur le site de Territoire Vendômois.
Immersion à Saint-Germain-des-Prés, les photos de Lucien Martineau à la Maison des Provinces à Blois jusqu'au 4 février. Sur la thématique des volcans, à la médiathèque Nef Europa à Montoire-sur-Loire jusqu'au 10 février. Art contemporain au 23 avenue Wilson à Blois, le goût des autres, travail de Félix Oyua et Inès Sanchez-Matelli. Faire et ressemblance, sculpture et peinture de Pierre-Jean Renard et aquarelle en trompe-l'œil de Gismond de Curias au parc de la Corbillière, 3 rue Fortino à Mer. Visite le mercredi, samedi, dimanche de 14h à 18h jusqu'au 27 février. Et voici les deux rendez-vous musique. Le Cadence Brass de Blois réunit des grands élèves et professeurs de cuivre et de percussion des écoles de musique de Blois Aglopolis. Son répertoire mêle œuvres originales et transcriptions, pièces classiques et traditionnelles, samedi 22 janvier à 19h à la salle des fêtes de Courcheverny.
Et pour finir,
le Château d'Eau, le jeudi 27 janvier à 20h, première partie avec We Hate You, Please Die.
We hate you, please die.
Ouais, autant pour moi. Une musique hybride qui s'affranchit du genre gros vent, du punk à la pop, en passant par le garage et bien d'autres choses. En deuxième partie, White Weir, trio blaisois formé en 2017 par d'anciens membres de Hells. Ils ont à cœur de balancer leur punk noise et nous terminerons cet agenda en les balançant sur les ondes de Studio Zef avec la Pôle Nord Session.
Eh bien, écoutez, non, on n'a pas la musique, si on l'a pas.
Elle va arriver.
Elle va arriver.
Ouais.
Ah, on n'est pas prêt, c'est pas grave, c'est la première Clémentine, on va se dépêcher. Donc, on va se quitter justement avec Whitewire, donc, qui était en Pôle Nord Session il y a peu avec le Château d'Eau, donc concert jeudi prochain au Château d'Eau à Blois, évidemment, et on recevra évidemment très bientôt une nouvelle Château Radio et une nouvelle Pôle Nord Session qui arrive très vite. On va se quitter dès que Clémentine sera prête. Elle est prête, super, bien joué Clémentine pour cette première réalisation. Et puis après donc le morceau des Whitewire, le temps qu'ils s'installent, ils sont là, on les voit dans le local. Donio et toute la bande de la Redeem Station sont là pour vous balancer 2 heures et plus si affinité de reggae comme chaque vendredi soir. On est très content de leur passer le relais. Bon week-end, bonne soirée, et on se retrouve très vite sur les antennes de Studio Zef. Salut.